Les trois évangiles de Matthieu, Marc et Luc racontent cette rencontre de façon très comparable. Mais il est assez intéressant de les rapprocher, de les réunir, pour voir un petit peu les différences, et surtout pour pouvoir comprendre la puissance et la notoriété de cette rencontre, le face-à-face étonnant de cet homme avec Jésus. D'abord, les trois évangélistes sont tous d'accord sur la motivation de cet homme, on doit dire son désir d'absolu, son désir de perfection, il vient en courant vers Jésus. Ils sont tous d'accord sur sa bonne éducation. Bon maître. C'est un homme qui connaît les usages, qui connaît les lois et qui les respecte, il le dit depuis son enfance. C'est un homme de valeur qui veut surtout progresser, il a une légitime ambition, il veut savoir ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle en héritage. Marc et Luc utilisent cette même expression, Matthieu est fait plus sobre. Mais s'il parle d'héritage, c'est parce que c'est évidemment, à cette époque, l'origine de sa richesse. Et c'est ce qui lui confère son statut social. Luc d'ailleurs dit que c'est un notable. Seul Matthieu en fait quelqu'un de jeune. Et pourtant, c'est comme ça que la tradition le désigne, le jeune homme riche. C'est un homme riche et c'est un homme seul. Pourquoi je dis cela? Parce que le texte dit qu'il avait de grands biens au singulier. Le texte ne dit pas qu'ils avaient au pluriel dans sa famille de grands biens. C'est ça qui aurait été logique. Alors, peut-être avait-il perdu ses parents, peut-être était-il enfant unique. Mais notez que Jésus l'invite à vendre ses biens pour les donner aux pauvres. Il ne lui dit pas de les laisser à ses frères, de les rendre à sa famille. Vous savez très bien, il faut souvent le rappeler, que ce dont nous héritons ne nous appartient pas totalement, on ne peut pas en faire ce qu'on veut. Cela vient de notre famille, c'est transmis de génération en génération pour les générations suivantes. Et il faut reconnaître à Jésus et au christianisme un respect fondamental de la famille à travers les générations. C'est bien plus qu'une valeur, la famille. C'est la cellule de base de naissance. C'est la cellule de base de la vie en société. Et à la fin, d'ailleurs, de ce passage d'Évangile, Jésus dit que celui qui aura quitté, à cause de lui et de l'Évangile, sa famille et ses biens, recevra dès ce monde-ci une famille plus grande encore. Une famille plus grande encore. Il ajoute, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Pourquoi des persécutions? Pour le dire en un mot, parce que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Le chrétien fait passer sa famille avant ses intérêts personnels. Souvenez-vous, parce que nous l'entendions début septembre, de la critique que Jésus avait adressée aux pharisiens, ou plutôt à ceux des pharisiens qui ne s'occupaient pas de leurs proches. Le texte que nous entendons disait, vous vous dites, supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère, évidemment j'ai des ressources qui auraient permis de t'aider, mais c'est réservé à Dieu, c'est corban, dit le texte. Et alors, vous l'autorisez à ne rien faire pour eux, pour son père ou pour sa mère. Et Jésus sévèrement disait, vous annulez ainsi la parole de Dieu. Et saint Paul écrit dans la première lettre à Timothée, si quelqu'un ne s'occupe pas des siens, surtout des plus proches, il a renié la foi. Il est pire qu'un incroyant. Ce face-à-face de Jésus avec cet homme riche est d'autant plus impressionnant que Jésus était pauvre. Il était né dans une famille de pauvres, dans un village de pauvres, qui avait suscité d'ailleurs cette remarque pleine de mépris qu'on lit au début de l'évangile de Saint Jean de la part de Nathanaël, quand il dit « de Nazareth », sous-entendu « de chez les pauvres », est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon ? Jésus avait grandi au milieu de gens pauvres, ses voisins immédiats, ses cousins, que très classiquement l'évangile appelle ses frères, des gens qui savent ce que manquer veut dire. Pas la misère, la pauvreté, savoir ce que c'est que de manquer. Non seulement savoir ce que manquer veut dire, mais savoir aussi la nécessité, et même mieux, l'obligation de partager. C'est la seule réponse quand on manque, c'est de partager. Et Jésus, fils unique de Dieu, fils unique dans sa famille avec Joseph et Marie, avait probablement moins souffert de la solitude d'être un enfant seul, de ne pas avoir la chance comme on peut avoir la chance de grandir dans une bonne fratrie avec des frères et des sœurs. Non, il avait une vie intérieure suffisante, absolue. Mais il avait probablement souffert de l'attitude des autres enfants, de leur moquerie quand il refusait de participer à certains de leurs jeux. Il faut pouvoir imaginer ce qu'il a vécu, qui jalousait évidemment ses facilités et qui ne comprenait pas, mais ça c'est vrai dans tout l'évangile et encore aujourd'hui, qui ne comprenait pas son attention pour les petits, pour les exclus, pour les malades. Jésus n'a gardé aucun de ses camarades d'enfance parmi ses disciples. L'évangile ou la tradition l'aurait évidemment indiqué. En revanche, les premiers disciples qu'il a appelés, c'était des frères. Simon, Pierre et André, Jacques et Jean. Et il a très vite constitué un petit groupe, le groupe des 12, pour les former, nous disons pour les former à la mission. Mais en réalité, au plus profond, pour les former à la véritable fraternité, pour leur apprendre à se supporter entre eux, à partager, à échanger, à s'entraider, en un mot, à servir. Il a repris leur éducation pour la tirer vers le haut, pour transformer en charité ce que chacun d'eux avait acquis, avait reçu dans sa famille d'origine. Et Jésus a passé 3 ans pleines avec ses disciples pour les purifier de leurs préjugés. Ces préjugés dont ils avaient hérité, ces préjugés dont nous héritons tous. Et voyez maintenant comment cet homme riche, que Jésus appelle à tout quitter pour le suivre, c'est une vocation particulière, c'est un appel particulier, c'est l'occasion pour nous aujourd'hui, comme tous les jours, de prier pour les vocations, pour que le Seigneur envoie des ouvriers pour sa moisson, de prier pour la vie consacrée. Eh bien comment cet homme, entendant cela, le texte dit, devient tout sombre et il s'en va tout triste. Mais en réalité, il s'en va tout seul parce qu'il ignore qu'il n'y a de véritable richesse que divine et humaine. Vous connaissez cette phrase, cet adage d'il y a plusieurs siècles, il n'y a de richesse que d'homme. La phrase exacte, c'est il n'y a de richesse que divine. Dont une des plus grandes, c'est la miséricorde divine. Dieu est riche en miséricorde, mais il n'y a de richesse que divine et humaine. Et les questions matérielles, elles viennent toujours au second plan. Elles n'ont évidemment pas la même intensité, la même valeur. Et c'est pourquoi, et on comprend que Matthieu, et pas seulement Matthieu, toute la tradition est faite de cet homme, quelqu'un de jeune, mais au mauvais sens du terme, au sens de manque de maturité. Au sens de manque de maturité, il n'a pas compris ce qui importait dans la vie. Qu'il n'y a de richesse qu'humaine. Est-ce que s'il avait vécu dans un autre milieu, dans une autre famille, il aurait pu mieux répondre à l'appel du Christ? C'est ce que nous croyons de l'Église. C'est ce que nous croyons de l'Église du Christ. Pour autant que nous ayons ce désir, que nous cherchions d'ailleurs à développer, ce désir, cet esprit d'ouverture, de conversion et de partage. Ce sens du partage que notre société ignore aujourd'hui jusqu'à en crever, où personne ne veut renoncer à ses privilèges. Mais que nous demandions cette grâce au Seigneur d'être capable de renoncer un minimum, de retrouver surtout un minimum d'humanité, de retrouver un vrai sens de la fraternité. Pas de l'amitié, je dis bien de la fraternité, parce que la fraternité, c'est une relation irréversible qui repose sur une filiation, qui a une source divine et une filiation divine. C'est ce que dit la généalogie de l'évangile de Saint-Luc, fils d'Adam, fils de Dieu. On peut renier cela. Et on ne s'étonne pas ensuite d'avoir perdu le sens de la vie. Ce qui est impossible aux hommes, pour reprendre l'expression de l'évangile, ne porte pas seulement sur cette liberté à l'égard des biens matériels, mais sur la fraternité à laquelle nous sommes appelés par le Christ et dans le Christ. De façon très concrète, si votre frère ou votre sœur, si un membre de votre famille vous est devenu un étranger, reprenez la parole du Christ. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Souvenez-vous de la façon dont il a été reçu lorsqu'il est revenu dans son village, dans sa famille d'origine. Souvenez-vous de cette phrase du prologue de Saint Jean qu'on entendait naguère à la fin de chaque messe. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. La richesse, la vraie richesse, la richesse d'une famille aimante, c'est celle où on apprend à accueillir, où on apprend à partager, où on apprend à s'entraider, à se supporter, à servir, à pardonner. Par amour du Christ, faisons de l'Église une famille aimante.